Starlink.
Oui, c'est le truc de Elon Musk, c'est ça?
Ouais, c'est le truc des satellites.
Yes, à se connecter directement à Internet avec les satellites qu'il a lancés. Ouais.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour 2 heures de Gai Savoir. Dans Zoom Zoom Zen, chaque après-midi de 16h à 18h, vous le savez, on décrypte notre époque à travers ces mots. Et aujourd'hui, un mot dont vous entendez beaucoup parler, le nom d'une entreprise qui fait, si j'ose dire, la pluie et le beau temps dans l'espace. Starlink, le réseau de satellites d'Elon Musk, si utile à la défense ukrainienne, décisif aussi en Iran, mais qui pose d'autres questions, comme par exemple, on va le voir, dans l'Arctique canadien, où on se retrouve avec un pays dépendant d'un opérateur privé. Starlink, un mot en forme de piège pour notre rédacteur en chef Cyril Lacaire, né sous Giscard, qui a cru qu'on allait zoomer sur Star Trek. La série, évidemment, de son adolescence. À aucun moment, l'absence totale de la série Star Trek dans l'actu ou des films Star Trek, dont le dernier remonte à 2009, n'a alerté Cyril sur le fait qu'il était tout de même étonnant, voire incongru, qu'on y consacre une émission entière en 2026. Il est donc arrivé ce matin à Radio France déguisé en Capitaine Kirk, le personnage auquel il s'est toujours le plus identifié, car, je le cite, « normal, c'était le beau gosse de l'USS Enterprise ». Le beau gosse
Kirk
et Capitaine Kirk, évidemment.
Mais qu'est-ce que vous racontez?
Évidemment, vous étiez fan. Écoutez,
Kirk.
J'ai dit Kirk, évidemment.
Dit Kirk.
Mais pas du tout.
Vous reprenez, mais
vous comprenez
vous êtes
avec
planté,
le Kirk. Pas du tout. Mais c'est vous qui êtes fan en même temps, c'est pas moi. Moi, je suis jeune. Le beau gosse est capitaine du vaisseau, ce qui n'est pas anodin pour Cyril qui, depuis tout petit, adore commander. Évidemment, son accoutrement a surpris les spectateurs venus assister à l'Hyper Weekend Festival. Avec son legging paqué en relief, son juste au corps jaune moutarde et son pistolet laser à spirale, il a fait peur à certains, notamment aux enfants. Dont certains ont eu besoin d'une cellule psychologique. Surtout quand pour les rassurer, mais ça a eu l'effet inverse, le capitaine Kirk, la carrière, leur a lancé.
Et oui, les jeux, on est là.
Bref, quand il est arrivé dans l'open space et qu'il a vu que je n'étais pas déguisé en Monsieur Spock, Cyril a levé les yeux vers le tableau de programmation et il a lu Starlink. Il s'est senti bête, on le comprend.
On serait pour ça.
Heureusement, n'était alors présent que Pierre Courade, qui, trouvant tout à fait normal de porter des slims en 2026, n'a pas remarqué que Cyril était déguisé. Tout était bien, qu'il finissait bien. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Je sais pas, mais dans la version française, on l'appelait pas le capitaine Kirk.
Mais non,
c'était Kirk. Kirk. Très bien.
Quelle journée, en tout cas.
Toute une époque.
Sacrée
journée pour Cyril.
J'imagine Cyril en legging jaune, là, ça.
C'est... Une bise à William Shatner. Qui est toujours vivant.
C'est l'acteur. Il est toujours vivant.
94 ans.
Ah oui, ouais. Il porte beau encore.
Je sais pas ça.
En tout cas, il est vivant. Écoutez.
J'arrive pas à le faire.
Oui,
c'est pas radiophonique.
C'est très bien. Quentin fait un joueur radiophonique qui est le signe Star Trek. Ouais, le V
avec
les doigts.
Il n'y arrive pas. Son petit doigt ne veut pas aller vers son.
Oui, bon, bref.
Il y a un problème, vous avez un problème de motricité.
Motricité oui,
fine, Manon. Nous y reviendrons sur une autre émission. Bonjour, Célestine Raboam.
Bonjour.
Merci beaucoup, bienvenue dans la bande. N'ayez pas peur. Célestine, vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique, l'IFG, et chercheuse au centre de recherche Géode, affilié à l'Université Paris 8. Vos recherches portent sur les enjeux soulevés par les dépendances technologiques dans l'Arctique canadien. Dépendance exacerbée par ce système d'Elon Musk, Starlink, un système qui permet pourtant, on l'a dit, aux Ukrainiens de communiquer sur le front ou aux Iraniens de contourner la censure en ce moment. Alors, qu'est-ce que Starlink? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un danger ou, au contraire, un outil de liberté? Comment éviter d'en être trop dépendant? C'est ce que vous allez nous expliquer durant cette heure ensemble. Juste le temps de vous présenter deux journalistes dont je suis totalement dépendant, puisqu'ils font deux choses dont je serais totalement incapable. Aller parler à des inconnus dans la rue et lire les bêtises des gens sur les réseaux sociaux. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Zoom donc sur Starlink, le réseau de satellites d'Elon Musk, totalement géré par Elon Musk. Il faut peut-être commencer par ça. Starlink, il n'y a pas d'autres actionnaires que Musk, Célestine?
Alors, donc Starlink, c'est effectivement une division de SpaceX dont le PDG est Elon Musk. Et le principal atout, on va dire, de Starlink, c'est que la quasi-entièreté de la chaîne de valeur du réseau est contrôlée par SpaceX, qui construit les satellites, qui construit les antennes des utilisateurs, qui lance avec ses propres fusées, donc généralement Falcon 9, les satellites en orbite, qui gèrent toute la partie opérationnelle du réseau et qui, enfin, vend les forfaits Internet aux utilisateurs. Donc, il gère quasiment l'ensemble de ce réseau.
Donc, c'est bien Elon Musk qui dirige tout seul.
Globalement, oui.
Globalement, ça permet de résumer comme ça. Ok, c'était Starlink et pas Star Trek. My bad. Mais Manon, elle peut quand même faire sa pièce jointe sur Monsieur Spock, me suppliait-il ce matin. Non, Cyril, Manon ne consacrera pas sa pièce jointe à Monsieur Spock.
Désolé,
car c'est Starlink notre non, sujet. Vraiment. Mais Cyril, vous êtes réactif. Vous allez donc nous dire d'où ça sort, cette idée de diffuser Internet depuis des satellites.
Imaginez, nous sommes au milieu des années 2010 et la Silicon Valley panique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en Occident, tout le monde est déjà sur Facebook et la croissance stagne. Il faut aller chercher les prochains milliards d'utilisateurs ailleurs et pourquoi pas en Afrique. Problème, des millions de personnes du continent vivent dans des zones blanches, c'est-à-dire sans réseau. C'est là que Mark Zuckerberg a une idée. Puisqu'on ne peut pas tirer des câbles partout, on va faire descendre l'Internet du ciel. Ce projet s'appelle Aquila. À l'origine, Aquila, c'est une sorte de drone solaire gigantesque, de l'envergure d'un Boeing 737, mais qui pèse le poids d'une simple voiture. Le patron de Facebook veut faire voler cet Aquila en permanence au-dessus du continent africain pour diffuser le Wi-Fi. Du coup, Google s'y met avec le projet Loon. Ce sont des ballons stratosphériques gonflés à l'hélium et eux aussi, ils doivent diffuser du Wi-Fi. Après la ruée vers l'or, voici la ruée vers le ciel, quand les géants de la tech voulaient devenir les opérateurs télécoms du tiers-monde.
Mais ça n'a pas marché comme prévu.
Et non, Zuckerberg oublie son drone géant qui s'est crashé et s'achète un vrai satellite. 200 millions de dollars, il fait appel à SpaceX pour le mettre en orbite, mais la fusée explose et le satellite avec. Du coup, il l'a fait installer un câble sous-marin qui fait le tour du complet du continent africain. Voilà Zuck devenu agent des PTT. Alors, d'où ça sort la colonisation de l'espace pour propager le Wi-Fi ? Eh bien, de cette Silicon Valley jamais assoiffée de nouveaux utilisateurs, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Enfin, je dis merci, mais vous avez quand même oublié un autre acteur de cette histoire, Jean-Louis Borloo, qui voulait électrifier l'Afrique et sans électricité, pas de Wi-Fi, pas de communication. Pas vrai ce que je dis, Célestine ?
Oui, tout à fait, effectivement, on a besoin d'électricité pour que l'Internet fonctionne et c'est la même chose pour les satellites. Si vous voulez brancher votre terminal et votre antenne, vous avez besoin d'électricité.
Au sol, effectivement.
Tout à fait.
Si on en revient donc à Starlink, concrètement, comment ça fonctionne ?
Alors, donc Starlink, c'est un réseau d'Internet par satellite qui s'appuie sur ce qu'on appelle une constellation, donc un réseau de plusieurs milliers de satellites qui sont situés sur l'orbite terrestre basse. Donc l'orbite terrestre basse, c'est situé entre 200 environ et 2000 km d'altitude. Et les satellites Starlink, ils sont à environ 500 km d'altitude.
C'est pour ça qu'on les voit.
On peut les voir, oui, c'est
tout
ça.
Tout à fait. Ouais. Vous pouvez voir, il y a même des sites spécialisés qui vous permettent de vérifier à quel moment vous pouvez voir des trains de satellites Starlink passer au-dessus de chez vous.
Mais ça concerne quel endroit de la planète ? Ça concerne toute la planète ?
Eh bien, couverture de Starlink est globale. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement...
Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Internet si on a Starlink.
Alors, théoriquement, Starlink, si Starlink active le service sur une zone géographique, vous pouvez avoir accès à Starlink. Bon, il y a quand même les États ont quand même leur mot à dire. Si un État n'autorise pas Starlink, théoriquement, le service, vous n'êtes pas censé légalement y avoir accès. Mais bah, on l'a vu notamment en Iran, le service peut être activé dans une aire géographique. Et si vous arrivez à faire passer des terminaux utilisateurs dans ces pays-là, à ce moment-là, vous pouvez accéder au réseau.
Oui, c'est ça, parce que des terminaux, donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir un boîtier pour s'y connecter.
Tout à fait. Oui, c'est une antenne, tout simplement, et comme un boîtier Wi-Fi. Et donc, c'est à partir de cette antenne. Alors, ça dépend où et ça dépend les pays, mais globalement, c'est autour de 400 dollars le kit entier.
Le kit, d'accord.
Tout
oui, c'est quand même pas donné. Célestine, alors, vous nous avez dit que l'orbite des satellites Starlink était à 550 km d'altitude. C'est très bas par rapport aux autres satellites de communication. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que ça apporte au système Starlink d'être si bas ?
Oui, alors, traditionnellement, les premiers systèmes satellitaires qui ont été envoyés dans l'espace à partir des années 60, ils étaient envoyés sur ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Donc, c'est à environ 36 000 km d'altitude. Et c'est une orbite qui est très pratique pour les télécoms. Communication.
Pourquoi ?
Puisque à cette altitude, le satellite, il va tourner à la même vitesse que la Terre, il va couvrir toujours la même zone géographique, et en plus de ça, il va avoir de très vastes faisceaux de couverture, et donc il va pouvoir couvrir de grands territoires, et avec seulement 3 satellites géostationnaires, vous pouvez couvrir l'ensemble du globe. Sauf que si vous rapprochez les satellites de la Terre, alors vous gagnez en termes de latence, donc vous gagnez de la rapidité, parce que les données vont mettre moins de temps à aller de vous, de l'utilisateur jusqu'au satellite. En revanche, vos satellites, vous allez devoir les multiplier parce qu'ils vont tourner autour de la Terre beaucoup plus vite. Et donc, ils ne vont pas couvrir en permanence les mêmes zones. Et vous aurez besoin du coup d'avoir plus de satellites pour avoir une couverture globale.
On est assez critique d'Elon Musk dans cette émission sur pas mal de ses décisions et déclarations, mais là, sur le côté purement ingénieur, il faut lui reconnaître quand même un grand talent, parce que même le business model de Starlink n'était pas gagné d'avance, parce qu'il faut beaucoup plus de satellites.
Oui, mais alors du coup, le grand atout de Starlink, c'est qu'il s'appuie quand même sur sa société mère qui lance très régulièrement des satellites. Et d'ailleurs, on le voit, les concurrents directs de Starlink comme OneWeb ont fait appel à SpaceX pour lancer des des satellites. C'est aussi le cas du projet canadien Lightspeed qui fait appel à SpaceX pour ses lancements. Et donc, on a cette capacité de lancement déjà qui est un énorme atout. Et derrière, comme je vous le disais, le modèle économique, effectivement, de vendre directement le service aux utilisateurs, lui permet d'avoir une flexibilité que n'ont pas les autres opérateurs de constellations.
Quentin. Il y en a combien de satellites Starlink actuellement dans l'espace, à peu près ?
Alors, les chiffres varient, mais les dernières informations communiquées par Starlink, c'est à peu près 8000 satellites actifs actuellement.
Et je disais que tous ces satellites, donc 8000 satellites Starlink, communiquent entre eux en permanence par faisceau laser, un peu comme dans Star Trek. Par conséquent, si certains appareils sont défaillants, d'autres prennent aussitôt le relais et ça assure la continuité du service. C'est comme ça que ça fonctionne ?
Alors tout à fait. Oui, c'est une des spécificités techniques de la constellation, c'est l'utilisation de ces liaisons optiques intersatellites qui permettent en fait aux données de circuler entre les satellites de la constellation pour atteindre le plus rapidement possible les infrastructures et les utilisateurs. Donc déjà, c'est un atout au niveau de la capacité de la rapidité de la connexion, mais c'est aussi un atout au niveau de la résilience de la constellation, puisque, comme vous le disiez, si un satellite tombe en panne ou plusieurs satellites, eh bien les autres prennent le relais. Donc on a un maillage de satellites qui permet une résilience très, très forte.
Mais là, on parle quand même du coup de satellites en orbite. Du coup, est-ce qu'on peut couper Starlink ? Est-ce qu'un gouvernement peut arriver et brouiller les communications de Starlink ?
Eh bien, justement, c'est ce qu'on a vu récemment avec le cas de l'Iran, où le gouvernement iranien a utilisé des techniques de brouillage des systèmes GPS, puisqu'en fait, vos terminaux utilisateurs et les satellites sont équipés de capteurs GPS. Et pour capter les signaux, vous avez besoin de ces systèmes GPS. Or, le gouvernement iranien a les capacités d'utiliser un brouillage sur ces capteurs GPS. Alors, ça a largement réduit les capacités de Starlink, mais ça ne l'a pas complètement éliminé. Ça n'a pas complètement permis d'éliminer le service en Iran. Juste par contre, ça ne permet plus à la constellation de fonctionner, enfin au réseau de fonctionner normalement. Il y a eu une grosse perte de capacité, mais Starlink, l'une de ses autres capacités, c'est qu'il met à jour continuellement et donc tous les jours ses systèmes et ses logiciels et donc essaye de remettre à jour pour éviter les brouillages.
Il brouille les brouilleurs en fait, d'une certaine façon.
Il remet à jour pour éviter les brouillages.
Et comment ça se passe quand quelque chose tombe en panne ? Parce que est-ce que SpaceX envoie les satellites, d'accord, mais quand il y a un problème sur... Alors, on a compris que d'autres satellites pouvaient prendre le relais, mais enfin, s'il y a une dizaine de satellites qui sont en panne, et il y a un monsieur qui va monter, réparer tout ça à la main, comment ça se passe ?
Alors, bon, l'avantage, c'est que vous avez quand même 8000 satellites. Donc, de là à ce qu'il y ait suffisamment de satellites qui tombent en panne pour que le réseau soit complètement hors service, pour l'instant, c'est pas arrivé, mais ça pourrait potentiellement arriver si suffisamment de satellites sur une même zone géographique sont attaqués. Mais l'avantage de la constellation, c'est que, comme je vous le disais, les satellites, ils sont toujours en mouvement. Donc, en fait, vous aurez toujours des satellites qui vont passer et qui, théoriquement, sont actifs, à moins qu'on ait un État qui soit capable de désactiver 8000 satellites. Pour l'instant, ce n'est pas possible. En tout cas, aucun État n'en a montré la capacité.
En 2023, quand il avait présenté son révolutionnaire mug Lucy Gallou au concours Lépine, il se présentait comme le Elon Musk français. Trois ans plus tard, il est toujours dans cette antichambre de la gloire entrepreneuriale qu'on appelle le micro-trottoir de Zoom Zoom Zen. Oui. C'est bien aussi, c'est bien, Quentin.
J'adore ça, j'adore ça.
Alors, Quentin Starlink, j'imagine que tout le monde en a entendu parler.
Oui, évidemment, je suis sous la ligne 6 du métro parisien. Oui, c'est votre métro, Manon. Alors, oui, les gens vous reconnaissent dans
ces rares.
Alors, sous cette ligne du métro aérien, je croise la route de cet homme, casquette américaine, sac à dos, il a la tête d'un mec sympa. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Karim.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Guide touristique.
C'est quoi votre endroit préféré à faire visiter ?
Je vais en Champagne, je vais en Bourgogne, je fais château de Versailles, vous voyez, donc je m'éclate partout, quoi. Moi, j'ai pas de préférence.
Il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen, Starlink.
Oui, c'est le truc de Elon Musk. Yes.
Ah, est-ce que vous savez à quoi sert Starlink ?
Ouais. À se connecter directement à Internet avec les satellites qu'il a lancés.
Oui. Ouais. Ben, je lui demande s'il sait comment ça fonctionne, à combien de kilomètres ces satellites volent au-dessus de nos têtes, par exemple.
À mon avis, ils ne sont pas très hauts parce que j'ai été guide aussi au Chili, dans la cordillère des Andes, et je les voyais le soir. Ah ben, c'est des petits points qui se suivent. Donc c'était toute une constellation comme ça, une ligne droite, quoi. Et tous les X mètres, eh ben, on voyait un petit point lumineux, mais on les voyait vachement bien. Donc je pense qu'ils sont assez bas.
Ils sont à 500 km d'altitude.
Ouais, donc c'est rien, 500 km, c'est rien.
On parle de cette invention, cette technologie qui peut permettre de lutter, peut-être même de sauver des vies, et on pense à l'Ukraine, notamment.
Ah non, mais ça peut être très bien aussi si on est perdu dans le désert et qu'on n'a pas de connexion Internet, si on peut se connecter à Starlink, et pour appeler un secours, effectivement, Starlink, ça a un côté positif. Mais après, qu'est-ce que veut en faire le dirigeant ? Si on a un dirigeant qui est un peu taré, eh ben, son invention peut un peu partir en, en vrille.
On est plutôt savant mesuré ou savant fou ?
Ah, avec lui, je pense que c'est un savant fou, quoi. Après, il doit s'en mordre les doigts d'avoir fait de la politique, parce que bah, Tesla, ça a bien chuté. Donc, il faudrait qu'il s'occupe ou de son business, ou qu'il aille faire de la politique.
C'est voilà. Vrai qu'on l'entend un peu moins. Ma prochaine rencontre est une rencontre d'outre-Manche.
Bonjour.
What's your name ?
Leslie. I'm from the UK, London.
Elle vit à Londres maintenant, pour la traduction.
Non, non. Leslie. Foutez de moi, vous avez entendu votre accent pourri.
Vous étiez en train de vous moquer de moi.
Oui, oui.
Oui, voilà, je le dis. Oui. Voilà, donc elle habite à Londres, oui. Cette capitale. Leslie découvre le mot sur lequel on a décidé de zoomer aujourd'hui.
Starlink.
Yes.
It's
Starlink, en gros, c'est un modem.
It's a way to connect to the
c'est un moyen de se connecter à Internet.
Think,
je pense que sur le principe, c'est une bonne idée.
If it would not
si ce n'était pas aussi politique,
idea,
ce serait vraiment une bonne idée.
From...
Vous savez, enfin non, vous ne pouvez pas savoir, mais je suis en route pour l'Ukraine. Et là-bas, ils ont de gros problèmes avec Starlink, parce que Musk menace régulièrement de leur couper l'accès pour des raisons politiques.
Je lui demande quel pouvoir ça donne à Elon Musk.
C'est un pouvoir immense, parce que ça veut dire que les soldats ukrainiens sur les lignes de front n'ont plus accès aux données dont ils ont besoin. Or, ces données sont indispensables pour faire voler et piloter les drones. Ils ne peuvent pas le faire avec un simple téléphone. La bande passante n'est pas suffisante. Ils doivent passer par Starlink. Et Starlink, lui, a la puissance et le débit nécessaires pour faire fonctionner toute une flotte de drones. Sans cette technologie précise, ils ne peuvent tout simplement pas opérer.
Ça donne à Musk un pouvoir de marionnettiste de guerre non négligeable et dans un moment stratégique, ça peut tout changer. Tiens, Adrien, qui prépare un doc sur les municipales parisiennes, réagit à son tour. Starlink, ça lui évoque quoi ?
Elon Musk, la fin du ciel étoilé.
La fin du ciel étoilé ?
Ouais, bah Elon Musk, il déploie cette espèce de constellation qui s'appelle Starlink. Et en fait, ça lasse des sortes de traînées lumineuses qui gênent le travail des astronomes. Bah, je crois que l'Agence spatiale européenne a dit que ça risquait de nous couper un peu de l'espace à terme parce que ça freine les capacités d'observer l'espace depuis la Terre.
Ah, ça veut dire qu'il nous isole ?
Ouais, ça nous isole. Enfin, ça nous isole. En même temps, ça nous connecte, mais je sais pas si ça nous connecte à des choses très heureuses, quoi.
Ma dernière rencontre, c'est lui qui arrive, tout transpirant.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Louis Gabriel.
Louis Gabriel, on va vous décrire. Tenue de sport,
appelle-moi
casquette.
Appelle-moi LG.
LG ?
Ouais.
Salut LG.
Ça va ?
Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de Starlink ?
Bah, c'est de la merde, hein. C'est pas terrible. Hein. Disons que j'ai un peu un problème avec Elon Musk, archi-capitaliste, super milliardaire, machin. Bon. Disons que je suis pas forcément gauchiste de base, mais il y a des gens comme ça qui me donnent, qui ont tendance à me donner envie de le devenir un peu plus, tu vois.
C'est une bonne nouvelle.
Mais quand même, je lui dis, en claquant des doigts, il peut redonner Internet à des gens qu'on souhaiterait couper du monde.
De ce point de vue-là, c'est peut-être pas mal, mais après, moi, ce qui me dérange, c'est que ce soit une seule personne qui ait la main là-dessus. Bah, parce que s'il a envie de mettre et de démettre, il fait comme mieux, tu vois. Bon, par contre, moi, je vais devoir te laisser, là, parce que le temps que j'aille prendre ma douche et que j'aille manger, la cantine, ça ferme à 13h45.
Bah oui, on voit bien que ce pouvoir vous intrigue dans la rue, vous inquiète aussi. Que tout repose sur un seul homme, et pas n'importe lequel. Un homme qui a travaillé avec Donald Trump, qui a fait un salut comparable à ceux des nazis, qui a fait de son réseau social un repère sans modération et qui préfère réécrire l'histoire avec son IA. Ça pourrait nous empêcher de dormir, non ? Mais bon, faudrait pas non plus qu'on soit en retard à la cantine.
Merci Quentin. À suivre dans Zoom Zoom Z, Marie a 2-3 choses à vous dire concernant l'opération promo XXL de Pierre Ninet. Manon décryptera le revers des mêmes politiques qui font rire tout le monde et on parlera de cette notion qui colle au basque des femmes, l'hystérie. Ce sera juste après Bill Withers, Lean On Me sur Inter.
But if we are wise, we know that.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Voici venu le moment de nous faire des amis dans le show business, c'est important. Marie Debreuer, une chronique cinéma aujourd'hui, puisque vous êtes allé voir Gourou, le film de Yann Gozlan.
Gourou, c'est l'histoire de Mathieu, coach en développement personnel qui perd pied à la recherche de gloire. J'ai vu le film, évidemment.
Évidemment.
Hein, et il y a une scène qui m'a vraiment marquée. C'est le fameux, quand le fameux coach Matt entre dans une colère noire après avoir demandé à ChatGPT la moyenne de taille des pénis en France et qu'il se rend compte qu'il lui manque 2 cm. Je trouve que le jeu de Pierre Ninet est hyper fin. Tu vois vraiment que le personnage a une très petite queue, quoi. C'est dans le regard. Franchement, Pierre Ninet, quel acteur. Quel acteur. Pierre Ninet, je déteste l'adorer, mais j'adore le détester. J'ai vu Le Comte de Monte Cristo 3 fois. Hein, c'est vous dire. Par contre, même à la 3e fois, j'ai toujours pas compris comment personne ne crame que c'est le même gars, quoi. Personne. Pourquoi personne lui dit pourquoi t'es déguisé, man? Je suis pas du tout déguisé. De quoi tu parles? Tu parles trop bizarre. Edmond, c'est toi. Je suis le Comte de Monte Cristo, putain. Et fin du film. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que Pierre Ninet pour incarner un coach en développement personnel. Le gars est parfait, quoi. Littéralement parfait. Il pourrait me vendre n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai acheté un âne pour faire comme lui. Alors que j'ai pas de jardin. Je suis vraiment trop conne. Désolé aux voisins de ma résidence. Hein, c'est Chouquet qui fait hi-han sur le balcon là depuis 4 jours. Je vais trouver une solution. Enfin, j'ai un barbecue prévu la semaine pro. Dans le film Gourou, il y a une scène où coach Matt se rend à TPMP avec Hanouna et ses chroniqueurs. C'est hyper réaliste. L'idée, c'est de montrer que c'est la seule émission qui donnerait la parole à des gros bouffons qui disent n'importe quoi. Et c'est vraiment le TPMP à l'ancienne. Hein. Il y a Jean-Michel Maire sur le plateau et tout. Bon, sa réplique a été coupée au montage. Apparemment, Jean-Michel n'a pas pu s'empêcher de faire des chabits à Ninet. Voilà, c'est la méthode Actor Studio. Il ne pouvait pas sortir de son personnage, Jean-Mich. Je le comprends. Hein, une autre scène qui a été coupée au montage, c'est coach Matt qui fait un bras de fer avec Gilles Verdez en blackface. Dommage. Apparemment, ça ne marchait pas. Gilles Verdez étant trop woke. Pierre Ninet, il fait tellement de promos avec ce film. Le gars est partout, dans la Starac, sur YouTube. Il est même allé faire la traque de vos rêves avec Moziman. Après, c'est vraiment Pierre Ninet qui l'a fait. Hein, pas son personnage de coach Matt. Ça aurait été méta, quoi. La dream track de coach Matt. Ça aurait fait un truc du genre « D'abord, tu me fous les Pixies, la musique de Fight Club, là !» Ouais, attention, hein, pas trop longtemps, parce que la première règle du Fight Club, c'est de pas parler du Fight Club. Après, tu me mets la phrase du vieux schnock dans Spider-Man.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Yeah, trop intelligent ce vioc. Après ça, je veux de la grosse techno. Ouais. Et avant le drop, tu me fous Patrick Fiori.
Que tu reviennes.
Oh putain, j'ai les poils, Moziman. Regarde mon avant-bras, putain. Et là, tu termines avec le rire du Joker, mon film préféré. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait de la promo, mon Pierrot.
Belle leçon de la part d'une artiste dont ce petit Niné ferait bien de s'inspirer s'il veut faire une carrière un jour. C'est un terme qu'on pensait appartenir au passé. Pourtant, on continue de l'employer en 2026. Zoom sur l'hystérie et plus particulièrement sur celle qu'on appelait les hystériques. On est toujours avec Pauline Chanu, journaliste qui vient de sortir une enquête passionnante sur le sujet. Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes. C'est aux éditions de La Découverte. Pauline, avant de revenir sur l'histoire de cette invention, vous prenez très vite l'exemple de Britney Spears dans le livre. Pour quelle raison il est important cet exemple?
Parce que c'est un exemple extrêmement populaire, parce qu'elle est très proche, enfin cette histoire elle est très proche de nous dans le temps, parce que j'ai grandi avec Britney Spears et parce que moi ça m'a interrogée, le fait que moi comme nous toutes et tous, on ne soit pas posé plus de questions sur les raisons pour lesquelles cette femme avait disparu, enfin en tout cas qu'elle n'avait plus droit à la parole, qu'elle n'avait plus droit de contrôler sa carrière, son budget, mais même jusqu'à son corps en fait. Ce qu'elle raconte dans son autobiographie que j'ai trouvé vraiment hyper intéressante, puisqu'elle a réussi enfin à sortir de la tutelle imposée par son père et de l'hôpital psychiatrique, parce que ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a aussi passé quelques temps en hôpital psychiatrique, elle a été sédatée, elle n'avait même pas le droit de contrôler son utérus, pour le coup, puisqu'elle n'avait pas le droit de retirer son stérilet, c'était son père qui pouvait décider pour elle si elle pouvait le retirer ou non.
Et donc, pardon, ça, c'est la législation américaine de l'État où est Britney Spears, ou c'est où on retrouve ça ailleurs? Par exemple, chez nous, c'est pas possible ça, chez nous en France, qu'un père se retrouve dans cette situation.
En fait, on n'a pas de statistiques aujourd'hui sur qui interne qui en France. On a très peu de statistiques en fait sur la psychiatrie. On commence à en avoir un peu, mais ça qui est très compliqué, c'est d'avoir des statistiques en termes de genre, puisqu'on n'en a pas. Donc on a des micro-enquêtes, et je me suis basée là-dessus, enfin des enquêtes de sociologues. Mais si, bien sûr, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai rencontré des femmes qui avaient été internées par leur mari et par leur père avec l'aide de leur mari. Enfin, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire de l'hystérie, c'est qu'on retrouve souvent des sortes d'accords entre les médecins, les pères
entre hommes.
C'est vraiment une histoire qui se joue entre hommes. Vous disiez qu'on allait parler d'invention. En réalité, voilà, toute mon enquête, c'est de montrer que l'hystérie, c'est une fiction qui est sans cesse re-raconté, renforcé de siècle en siècle par des hommes qui trouvent toujours d'autres moyens de faire rentrer, puisqu'elle n'a pas de définition, ils trouvent toujours d'autres choses. Pourquoi?
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on peut plus se baser sur des arguments médicaux. Au 19e, la médecine croyait en ça, donc il y avait des livres, j'imagine que c'était enseigné, l'hystérie. Là, aujourd'hui, aucun médecin ne peut signer un document en disant que telle personne est hystérique.
Et bien en fait si, moi j'ai rencontré donc plusieurs femmes, la première avec laquelle j'ouvre le livre qui s'appelle Alix. Elle présente des symptômes, elle présente des tremblements, elle a une partie de son corps qui parfois se paralyse et ça dure pendant des années, et à chaque fois qu'elle va aux urgences, elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout prise au sérieux. En fait les médecins la renvoient chez elle, et ça c'est le moment où elle arrive à arriver aux urgences, puisque sinon quand elle appelle ils ne répondent même pas. Et en fait ça dure des années et des années, et puis au bout d'un moment son médecin généraliste lui dit en fait ça ne sert à rien que vous continuez d'aller aux urgences. Dans votre dossier, il y a marqué que vous êtes hystérique et donc vous ne serez jamais prise en charge.
Vous racontez aussi un autre exemple, celui, le calvaire d'Emma, dont le mari a utilisé l'internement psychiatrique pour la discréditer et obtenir la garde des enfants. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé et comment c'est possible?
Et bah oui, j'ouvre aussi le livre avec plein d'extraits de procès-verbaux d'hommes qui se retrouvent dans la justice et qui vont justifier les raisons pour lesquelles ils ont été violents avec leur femme. Alors, ils ne diront jamais qu'ils ont été violents, mais comme je le disais, ils peuvent faire passer ça pour la légitime défense. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est comment ces hommes se sont tous mis d'accord pour sortir toujours le même argument. Ils ont compris qu'en fait, ce serait le meilleur moyen de se déresponsabiliser et de pouvoir continuer d'être violent. Et Emma, en l'occurrence, elle a vécu des années et des années d'emprise, de contrôle coercitif, de violences sexuelles. Elle a été, comme beaucoup de femmes victimes de violences conjugales, elle a été isolée. Donc, elle a perdu son emploi, elle a perdu tout lien avec sa famille. Donc, à la fin, il n'y avait plus du tout de témoins pour voir ce qu'elle vivait. Et par ailleurs, très souvent, les gens ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'un foyer, puisque de l'extérieur, tout avait l'air super, monsieur faisait une belle carrière, ils avaient une belle maison, ils avaient des enfants, etc. Et elle, elle vivait l'enfer. Et puis au fur et à mesure, en fait, il a complètement sapé sa, sa confiance en elle, jusqu'à la faire douter de sa santé mentale. Il l'a manipulée constamment, psychologiquement.
C'est le gaslighting, on avait fait une émission.
Ouais, c'est ça, c'est le gaslighting, absolument.
J'aime bien placer des mots que je connais.
Et voilà, donc effectivement, il jouait avec ses perceptions, il pouvait lui dire quelque chose et lui dire le contraire ensuite, donc ce truc de donner des injonctions contradictoires, ça fait partie de cette stratégie, puisque l'idée du gaslighting, c'est que la personne, non seulement se sente folle, mais semble folle aussi aux yeux de l'entourage. Et donc il met tout ça en place jusqu'à ce qu'elle elle est effectivement à la fin dans un état psychologique déplorable, ce qui semble normal, elle avait perdu une vingtaine de kilos et tout, et elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique, emmenée par son mari, et puis là, ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est que quand elle arrive à l'hôpital psychiatrique, les médecins ne comprennent pas du tout ce qui se passe, et trouvent ça, en fait, chouette que ce mari soit là pour l'accompagner, lui rendre visite et tout, et lui disent « Vous avez beaucoup de chance, il y en a très peu des maris etc. comme ça. » Et voilà, en fait, on se rend compte qu'on peut être tous un peu dupes de cette fiction de l'hystérie, comme pour Britney Spears, par exemple, on a fermé les yeux collectivement.
Manon, aujourd'hui, vous revenez sur la vidéo virale du moment et ses conséquences.
Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. But which is predictable.
J'allais lui parler dessus. Bon, comment un discours très sérieux prononcé par notre président à Davos où il prend position contre Donald Trump est devenu un mème partagé des millions de fois sur TikTok. Toutes les conditions étaient réunies pour que ce moment devienne viral, car effectivement, on dirait une parodie. Macron sur son estrade avec ses lunettes de soleil à la Maverick et son accent anglais horrible. On a l'impression d'être dans Idiocratie. Certaines personnes pensaient même que c'était de l'IA. Résultat, des milliers de vidéos reprennent son For Sure et pas qu'en France. Notre président Firi le monde entier. Il y a même eu des remixes.
For sure.
Mais derrière les moqueries, ces mèmes ont surtout redonné énormément de hype à Emmanuel Macron. Dans les commentaires, on peut lire « Est-ce que Macron est devenu le gars le plus cool de Davos ? Il est vraiment trop beau avec ses lunettes. Il est vraiment trop fort à l'international. » Bref, ça peut paraître anecdotique, mais ça a des conséquences. Selon le dernier baromètre de l'IFOP, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est remonté à 20%, il a gagné 2 points ce mois-ci.
Ah, c'est pas forcément que grâce au mème,
Manon. Non, évidemment, on ne peut pas faire oublier deux mandats catastrophiques juste avec une vidéo virale, ce serait beaucoup trop simple. Mais il ne faut pas minimiser l'importance de ces images parodies qui sont devenues de véritables leviers pour les politiques aujourd'hui, car elles leur permettent de rester dans le coup, de se connecter à une jeunesse qui a laissé tomber les débats de 3 heures pour des vidéos de 1 minute, et de leur montrer une autre image que celle d'un président qui parle d'économie. Celui qui en avance là-dessus, c'est évidemment Donald Trump. Étant lui-même une caricature, il est facile à caricaturer. Depuis son élection en 2016, il y a des milliers de mèmes qui existent, qui ont été créés sur lui, autant par ses détracteurs que par ses fans. Son mugshot, son apparition dans « Maman, j'ai raté l'avion », lui qui fait un doigt d'honneur. Il y a même des sites qui répertorient les meilleurs mèmes de Donald Trump. Ça a fait de lui un véritable objet de pop culture.
Mais ça veut dire aussi que derrière l'intention de faire rire, il peut y avoir un risque.
Eh bah oui, car ces multiples images fun nous feraient presque oublier la dangerosité de la personne concerné, le résultat est là, Trump est président des États-Unis pour la deuxième fois. En 2018, des photos de Vladimir Poutine torse nu sur un cheval avaient aussi été l'objet de parodies. Mais si ça nous fait rire en Europe, en Russie, ces photos lui ont servi à se faire passer pour un homme fort, viril et fier, exactement ce qu'il voulait. En fait, ces mèmes ont avant tout pour objectif d'être viraux. Ceux qui les créent ne mesurent pas forcément les conséquences. Un exemple récent, l'arrestation de Nicolas Maduro au Venezuela. L'image de lui menotté, bandeau sur les yeux, a fait le tour du monde et a été parodié énormément de fois. Sauf que cette photo dit quand même autre chose. Un dictateur vénézuélien a été capturé illégalement par un président qui ressemble de plus en plus à un autocrate. On parle d'une crise internationale. Mais cette image a eu pour conséquence principale de booster les ventes du jogging Nike qu'il portait lors de son arrestation. Tout ça parce que cette photo est devenue virale. Aujourd'hui, les mêmes parodiques sont devenus de véritables outils de communication politique, notamment grâce à l'explosion de TikTok. Car maintenant, ils se déclinent en vidéo, en tendance humoristique. En France, ils font les belles heures de certains politiques comme Jordan Bardella ou Gabriel Attal qui ont grandi avec cette culture des mèmes. Ils savent jouer avec ces codes sans passer pour des ringards auprès de leurs fans. Il ne faut plus avoir peur du ridicule car au contraire, le ridicule, ça fait vendre.
Merci Manon. Dans quelques instants, nous jouerons au Zoom Zoom Test autour des notions en isme les plus étonnantes et on parlera de cette tendance du neupaïsme avec Corinne Maier. Le temps de s'écouter un petit Yael Naïm, la fille pas cool sur Inter.
Je suis pas la fille qui ose, je
suis pas la fille qui pose, pas la fille qui fait rire, pas de grandes choses à dire, pas la fille à la mode, jamais compris les codes, pas vraiment de conviction, quelques bêtes addictions, pas comme ça, un peu folle, pas du tout une idole, pas une briseuse de cœur, j'avais trop souvent peur, pas une grande sportive, pas vraiment combative, voilà tout ce que je ne suis pas, alors moi je suis quoi? Je suis la fille peu cool.
On aura traité des sujets en isme. Lors des premières saisons de Zoom Zoom, la source du gai savoir coulait, tel le brouilly dans le verre de Manon, accro-bouillon. Afro-féminisme, populisme, masculinisme, surtourisme, et puis ça a commencé à se tarir, on a été obligé de se tourner vers des trucs en isme plus niche, long-termisme, dark-tourisme, parisianisme. Mais avec le nepaïsme, on a débloqué le dernier niveau, on a la carte plus 4 du Uno, on peut faire n'importe quoi tant qu'on rajoute isme à la fin d'un mot. C'est donc parti pour un quiz spécial, truc en isme chelou. Jouons au Zoom Zoom test. Et tout d'abord, cette précision, aucun des mots que nous allons évoquer cet après-midi ne sera repêché d'un vieux quiz, ou pire, d'un Google Doc intitulé « Corbeille, mots à la con pour le quiz ». Ça serait indigne d'un orfèvre du gai savoir comme moi. Un tel document, d'ailleurs, n'existe même pas. Les choses étant claires, je vous présente notre premier syndrome.
C'est pour ça que vous étiez en avance aujourd'hui.
C'est ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout recyclé, vous allez voir. Non, non, le psittacisme. Premier indice, un membre de cette équipe en est atteint. Deuxième indice, le membre qui en est atteint n'aurait pas pu faire carrière en NBA, même si Muggsy Bogues, le joueur des Charlotte Hornets, mesure 1m67. Mais bon, c'est une exception, vous avez l'idée. Vous avez suffisamment d'indices pour deviner que le psittacisme est le syndrome qui consiste à imiter tout le monde et tout le temps.
Je suis une cruche.
À répéter des mots sans en comprendre le sens. Ou à buter sur les mots de plus de deux syllabes.
Oh, oh, c'est, oh c'est chaud B, B, B.
Cyril, c'est pas 1m67. Oh.
Quelqu'un qui imite le psittacisme. Mais ça viendrait où, la racine grecque? Il faut chercher la racine. Non,
Ça va.
Psittacie.
Et je vais pas faire votre quiz non plus. Ça va, c'est bon.
Moi, j'ai
dit
B.
Vous avez dit B, c'est une bonne réponse, Manon. Psittacisme, du latin et non pas du grec. Psittacie, perroquet. J'ai conscience que le QCM était pernicieux. Quentin souffrant de tous les syndromes proposés à la fois. C'était difficile de choisir. Mais le psittacisme, c'est donc le fait de répéter des mots sans en comprendre le sens.
Et si l'Occident, qui a occidentalisé depuis toujours, tentait de se
Oui, c'est pas grave. On n'y arrivera jamais. Mais assez parlé de Quentin, parlons plutôt de Cyril. Notre rédacteur en chef américanophile, dont le cœur a toujours été partagé entre Ponto Combo et Las Vegas, Cyril qui en ce moment en a gros sur la patate, heavy on the potato, avec les exactions de la ICE. Il a mal à son Amérique, nous confiait-il à midi en mastiquant ses ribs. Et à partir, de partir dans une envolée nostalgique à la gloire de Ronald Reagan, le dernier grand président selon lui. Vous ne serez donc pas surpris si je vous annonce que Cyril souffre de misonéisme. Mais là encore, Cyril étant tellement de choses à la fois, ça ne va pas être simple pour vous de deviner si le misonéisme, c'est le dégoût des jeunes, version niche de la misanthropie, l'aversion pour les nains, désolé Pierre et Quentin, ou la haine de tout ce qui est nouveau, un dérivé du sardouisme.
C'est
A.
Cyril aurait un dégoût des jeunes, Quentin ? Vous l'avez déjà ressenti dans vos interactions avec lui ?
Je ne sais pas si je suis plus jeune que lui, mais en tout cas, moi, je représente bien le dégoût à son...
Vous êtes plus jeune que lui.
Oui, oui. Ben voilà.
C'était la réponse, c'est bravo.
Ah,
non.
Yes.
Même s'il est exact que Cyril n'aime ni les jeunes ni les nains, a fortiori les nains jeunes, il déteste encore plus ce qui est nouveau. Pour lui, le monde aurait dû s'arrêter en 1998. On était champion du monde, Chirac était à l'Elysée, et dans la fosse d'un concert de Prince, électrisé par le groove du Kid de Minneapolis, sa fiancée de l'époque, une célèbre chroniqueuse culinaire, lui faisait la totale.
Et là, je commence à le prendre et à lui sucer le derrière.
Toute une époque, magnifique. Mais attention, comme je vous sens totalement conquis par ce quiz qui vous fait parcourir les collines verdoyantes de la langue française, je pose ici un autre mot en isme, les amis. Morosophisme. Le morosophisme est un dérivé du couradisme, puisqu'il s'agit de donner l'impression d'être très intelligent alors qu'en fait on bluffe. Du luisme, puisqu'il s'agit de considérer que les règles s'appliquent aux autres, mais pas à soi. Ou du marianisme, puisque le morosophisme est le fait de renier sa famille qu'on n'assume pas, comme le fait que Manon n'assume pas son pauvre tonton Thierry.
B, C.
Renier sa famille ?
Bah oui, t'assumes pas, comme... Enfin, pas comme moi, parce que ça n'est pas
comme mon oncle. Ah, ça y est, c'est enfin trahi après toutes ces années. Thierry Mariani est bien son oncle. Réponse B, bonne réponse de Quentin. Ah. Oui, tout à fait. Depuis sa virée Bandage Underground avec GC samedi dernier, où il s'est retrouvé dans un hangar désaffecté entouré d'hommes masqués qui évoquaient moins la perspective d'un défilé de mode que la perspective d'un blogang dont il aurait été le réceptacle, Quentin a appris à s'affranchir des règles.
Vous vous rendez compte
de toutes les règles.
Il n'y a plus de limite.
Juste, mais vous non plus.
Vous.
C'est vous-même qui allez appeler l'ARCOM. C'est vraiment inédit. Et ceux qui le connaissent bien savent que cette morosophie, qui consiste donc à trouver normal que les règles s'appliquent aux autres et pas à soi, avait commencé chez lui avec les impôts.
Ça brûle.
Et oui, ça brûle, Quentin, les impôts, mais ça s'appelle la redistribution. Pilier du vivre ensemble.
C'est sonore.
Enfin, comme dirait Manon en titubant vers les toilettes d'un bar à shot un samedi soir vers 3h du matin, allez, un petit dernier pour la route. D'après vous, qu'est-ce que le fixisme ? Le fixisme est une pratique qui consiste à se faire un fixe après chaque shot, contrairement à Manon qui, rappelons-le, n'a jamais touché la drogue.
Merci de le redire.
Ou le fixisme, c'est plutôt la théorie selon laquelle les continents sont ancrés sur des piliers abyssaux et ne peuvent donc pas dériver. Ou bien le fixisme, c'est la théorie selon laquelle les espèces vivantes ont été créées telles quelles et ne changent jamais à travers les âges.
C'est...
Bah, j'aime bien le B, moi. On serait sur des piliers, là.
On serait sur des piliers, c'est une bonne réponse de Manon Mariani.
Ah oui. Ah, oui.
Papa, c'est quoi le darwinisme ? Des conneries de wokistes. Clairement, depuis que Cyril a déscolarisé ses enfants et qu'il leur fait l'école à domicile lui-même, ce qui, vu son emploi du temps, est admirable, ils sont enfin raccord avec le seul livre qui compte, la Bible. Oui, selon le fixisme, Darwin aurait fumé la moquette, les espèces n'évoluent pas, puisqu'elles ont été créées par Dieu, et Dieu ne se plante pas. CQFD, victoire de Manon Mariani.
Ah oui.
Les trucs en isme, c'est votre truc.
Bah, ode au féminisme.
Oui. Ode au féminisme, très bien. Non merci, l'art heureux de se désengager, c'est le titre du livre de notre invitée Corinne Maillard, économiste et psychanalyste. Un livre dans lequel vous célébrez donc le ne-païsme, l'idée de ne pas faire, de ne pas succomber aux injonctions du quotidien, et on n'en manque pas. Corinne, vous reprenez cette phrase du juriste Alain Supiot, « Les gens ordinaires ont fait sécession ». Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, il a donc Alain Supiot a donné un entretien au Figaro il y a quelques années, et en fait il a repris une théorie d'un sociologue qui s'appelle Christopher Lasch, qui a annoncé dans les années 1980 que les riches avaient fait sécession, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans leur monde, dans leur bulle, et que le reste de la société ne les intéressait plus. Et il a repris en fait cette idée en disant que des gens ordinaires on fait sécession, selon lui, ce qui, pour moi, est une phrase qui a fait tilt immédiatement. Alors, lui parle du vote, en fait, de la politique, enfin, du champ politique en général et du travail. Et il explique ça par le fait que, au fond, on est dans un monde où on a très peu de leviers d'action par rapport à ce qui nous entoure. Et on a l'impression que rien ne change jamais, quoi qu'on fasse. Et au fond, ça rejoint finalement, à mon avis, certaines choses qui sont dans l'air. Et notamment, un mot, puisque tout à l'heure on parlait de la Chine, mais reparlons de la Chine. Et le mot chinois qui a apparemment, qui s'est répandu le plus en Chine donc l'année dernière, c'est le mot involution. Alors je ne le dis pas en chinois, hein, là c'est la traduction, donc c'est involution.
Je me disais c'est fou, je comprends le chinois, tout est comme.
Qui désigne dans le champ économique le fait de subir ou de vivre de plus en plus de concurrence pour une rentabilité qui est de moins en moins intéressante. Et j'ai l'impression, pour reprendre et commenter donc Alain Supiot, je me permets, qu'on vit dans un monde comme ça. C'est-à-dire, on vit dans un monde où qu'il faut s'engager de plus en plus, faire de plus en plus de choses pour des résultats finalement de moins en moins intéressants, de moins en moins probants.
Mais donc le népaïsme, c'est surtout pour un fait de la classe moyenne, c'est-à-dire les riches ont fait sécession, si on part de ce postulat, on peut dire que la classe moyenne, en réaction, décide de faire le moins possible, finalement, vu que leur marge de manœuvre d'évolution sociale est finalement mince, et donc c'est le népaïsme est un fait de la classe moyenne.
Il me semble que c'est, en tout cas, moi j'appartiens à la classe moyenne, donc c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'ai autour de moi. Donc j'ai un champ d'observation et donc je m'en sers. Je pense qu'il n'y a pas uniquement des questions individuelles, il y a aussi des questions collectives, c'est-à-dire l'idée qu'on a assez peu de prise sur les évolutions de la société, que voter finalement ne sert plus à grand-chose, comme on l'a vu quand même dans un certain nombre d'élections qui ont eu lieu ces dernières décennies. Donc c'est à la fois individuel et collectif, me semble-t-il.
Ça passe aussi par la lecture, ce népaïsme. Vous dites, vous, Corinne Mayer, moi, je préfère les livres désengagés. En conséquence, mon capital progressiste est faible, ce qui m'amène parfois à me poser une question angoissante. Serais-je sans le savoir de droite? Non seulement, je n'écris pas de livres engagés, c'est toujours vous, hein, mais je m'affiche désengagé. Pourquoi vous n'aimez pas ceux qui s'engagent? On sent presque une forme d'angoisse.
Non, c'est pas une angoisse. Mais j'ai l'impression que pour un certain... Disons que tout ce qui se prétend engagé, ça peut être les marques, en fait, les firmes, les entreprises doivent se prétendre engagées. Donc c'est un côté un peu irritant à force. On a l'impression qu'ils sont forcément en lutte pour un monde meilleur, alors que l'idée, c'est quand même de vendre des produits à la base. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui chantent ou qui écrivent des livres, dont il semble qu'il faut forcément qu'ils affichent l'étiquette engagée pour avoir une sorte de légitimité. Mm-hmm. Par exemple, une sorte de tic, c'est devenu une sorte de tic, à mon avis, il y a un certain nombre d'écrivains qui prétendent ou qui disent donner la parole aux sans-voix, qui est leur mm-hmm. forme d'engagement. Et c'est vrai que, bon, à force, ça suffit, quoi, en fait, donner la parole aux sans-voix. Déjà, essayons d'écrire des livres, essayons tous d'écrire des livres sympas, intéressants.
Oui, mais on vit quand même dans une société où on est de plus en plus individualiste, tout le monde pense de plus en plus à soi. Est-ce que revendiquer une forme de népaïsme, remettre une pièce dans la machine aussi, là-dedans.
Ah oui, mais incontestablement, mais de toute façon, il faut quand même faire attention à ce stigmate d'individualisme ou d'égoïsme, parce que la société a tendance à toujours montrer du doigt, avec cette étiquette d'égoïsme ou d'individualisme, de toutes les personnes qui refusent, en fait, de marcher au même pas que les autres. Les femmes, les personnes qui divorçaient il y a quelques décennies étaient considérées comme des égoïstes, les femmes qui avortaient ont été considérées comme des égoïstes, sans même parler des soldats qui refusaient d'aller au front, qui étaient des traîtres. Donc, c'est vrai que c'est une forme d'égoïsme, mais en même temps, si on le fait tous, ça peut donner des résultats très intéressants, d'autant que, au fond...
Si on arrête tous de voter, je ne suis pas sûre que ça donne des résultats très intéressants.
Ça risque de donner... l'extrême droite.
On verra bien. Oui. On verra bien, mais...
Ah, j'ai pas envie de, j'ai envie de voir.
Ouais, peut-être pas voir.
Ça sape, par contre, les bases d'un système où on a quand même assez peu de marge d'action. Donc, c'est peut-être à ça qu'il faudrait réfléchir aussi. D'autant qu'il y a quand même un certain nombre de désengagés qui se réengagent, justement.
Oui, c'est vrai qu'on en parlait en antenne. Le népaïsme peut être une transition, une parenthèse pour faire le point, se retrancher dans son monde et ensuite revenir à l'attaque. Merci, Corinne Mayer. Camille Lorente est en approche. Elle vient faire le bilan des 9 années de mandat d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Mais juste avant, voici Jude Line, Tiempo Pasa, sur Inter.
El tiempo va a pasar, no va a retroceder. Pensar en este momento y en ser joven otra vez. Que fue de aquel lugar, los chicos que besé. No quiero que pase el tiempo si voy a querer volver.
Te quiere como si estuviera muerto. Deja propina y nunca lleva suelto. Yo que no contesto a mensajes texto. Y a las llamadas ni respondería. No es personal, no te rayes, no te rayes. Y ya siempre va a haber cosas que nunca se olvidan. Un palo por la espalda, tu boca con la mía. Inshallah, un momento. Yo te agradezco tu opinión.
le florilège. Mathieu Noël sur France Inter.
Pour clore cette émission consacrée aux coulisses de l'Élysée, voici l'analyse de celle dont la seule présence à Davos suffirait à ramener la paix dans le monde. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas l'air en forme, Camille Lorente.
Mais non, ouais. j'ai mis mes lunettes de soleil pour cacher mon énorme gueule de bois présidentielle. Putain, je suis déshydratée depuis 2017. 9e année de Manu, je n'en peux plus. Sortez-moi de là. 9 ans, c'est une année de plus que Natacha Campouche. Hein. Oh. Eh oui, 2 quinquennats ressentis, 3 siècles en 2017, mais Manon était en CM1. Quentin pensait qu'il allait percer dans la musique. Cyril était déjà un vieux journaliste. 2017, Mathieu Noël était encore à la botte des médias privés. Bon, il allait encore falloir attendre un an avant de le voir faire son unique chronique chez Quotidien. Qui s'en souvient ? Personne, absolument personne. Oh là là, 2017, j'avais des fesses encore plus fermes que Macron face à Trump. Je vivais en Ardèche, j'avais 27 ans et un mec. Ah non, mais on se parle d'une autre ère géologique, là, en fait. Le Crétacé de ma vie sexuelle, le Mésozoïque de ma teuche. Le prochain qui me passe dessus, il devrait être archéologue. Bref, c'était il y a longtemps. Voilà, il faut que ça se termine. Anja Nussbaum, correspondante à l'Élysée, vous, c'est au quotidien que vous vous farcissez, Manu, quoi. 9 ans de captivité, d'accréditation au palais de Macron. Alors, il y a des séquelles, hein. Vous dites plus Premier ministre, mais PM. Hein. Vous parlez en sigle pour gagner du temps, quoi. C'est le speed de l'info. PR, président de la République. Moi, je préfère Press de la Rep, mais OK. PR, OK. Et moi, en lisant...
Comment ? Moi, Oedipien, quand même.
Okay. Ça nous emmène loin.
C'est ça. Moi, en lisant votre livre, enfin, le résumé que Claire-Sophie a fait, c'est pas résumé, je me suis dit, mais attendez, notre PR, d'ailleurs, égo démesuré, difficulté à admettre ses erreurs, énorme besoin d'attention et sentiment de supériorité. Notre PR ne serait-il pas un PN ? For sure ! Putain, je viens d'ouvrir les yeux, on vient de passer 9 ans avec un pervers narcissique, Anja. 9 ans avec un PN, c'est chez Faustine Bollard qu'il faut raconter votre histoire. Tout se recoupe, les législatives, c'était du gaslighting. Il essayait de nous faire douter de notre réalité, là. Non, vous n'avez jamais voté ça ? Non, je crois pas. Oh là là, heureusement qu'on a votre livre, Anja, parce qu'on oublie toutes les dingueries qu'il nous a faites. On est tous en amnésie traumatique, là. C'est heureusement qu'il y a votre livre. C'est l'équivalent des potes qui te remémorent toutes les fifoleries de ton ex toxique, là. Et le jour où il a nommé Didier Raoult au conseil scientifique, le jour où il a fait une vidéo avec McFly et Carlito, le jour où il se demandait qui aurait pu prédire la crise climatique, le jour, quand il sautillait en chantant qui ne saute pas n'est pas français, à côté d'athlètes paralympiques en fauteuil. Mais quel grand zinze ! Il me colle une migrénasse présidentielle. Putain, il n'avait pourtant qu'une seule mission, c'est la conclusion de votre livre, celle de faire barrage au RN, de, je cite, faire tomber la fièvre comme le Doliprane. Et à la place, il a fait quoi ? Il a payé sa tournée de shot enflammée, le salaud ! Il nous a servi des Jäger bombes au petit-déj, le traître ! Donc là, j'annonce, les amis, il va falloir boire de l'eau. Et il va falloir se concentrer sur les prochaines fiestas électorales, sinon l'after, il va être très, très sombre.
Merci Camille Lorente, merci à tous d'avoir passé cette heure avec nous. On se retrouve lundi en direct, on parlera des crises humanitaires qui ne font pas l'actualité alors qu'elles devraient. Ce qu'on appelle les crises oubliées. À lundi, 16h.
Zoom Zoom Zen.